m'avez manqué.
Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République.
La bête de l'événement est là.
La République, c'est moi.
Je vous demande de vous arrêter.
Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême.
Non, je le dis avec courtoisie, mais...
Oui. Avec courtoisie,
bien sûr.
Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin.
Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les.
Calme, au secours.
Voilà, bah c'était un peu l'envie de vomir sur ces ordures. Enfin, pardon.
Vous êtes sur Radio Courtoisie.
Bonjour chers auditeurs, heureux de vous retrouver en compagnie de toute l'équipe de Restons Courtois du vendredi soir 17h30, 19h30, émission réalisée en partenariat avec Boulevard Voltaire, le grand quotidien de la France droite. C'est parti pour 2 heures avec ce soir 3 voix d'exception pour observer l'envers de l'actualité de notre cher et vieux pays, vous connaissez la formule. Yves-Marie Sevilla, journaliste politique à Boulevard Voltaire. Bonsoir Yves-Marie.
Bonsoir Marc, bonsoir à tous.
Jean-François Coulon-Desart, journaliste écrivain, est là aussi. Bonsoir Jean-François.
Bonsoir à tous.
Et Gérard Gachet, journaliste ancien élu du 16e arrondissement et ancien directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles.
Bonsoir cher Marc.
Bonsoir cher Gérard, vous pouvez chers auditeurs nous appeler, vous le savez, au 01 46 51 00 85 ou nous envoyer vos courriels à courtoisie@rc.fr. On les lira à l'antenne dans toute la mesure du possible. Vous êtes comme d'habitude les bienvenus, on aime bien recevoir vos petits messages. Alors au programme ce soir, ira-t-elle à l'Élysée, Marine Le Pen, face à son destin? Nous recevrons Hubert Coudurier, qui est journaliste, directeur de l'information du Télégramme, anciennement le Télégramme de Brest, et qui a écrit un livre absolument passionnant, Le mystère Marine Le Pen, aux éditions Plon, livre dont nous parlerons abondamment avec lui. Nous l'avons lu, détaillé, et je le vois qui arrive, donc tout va bien, il sera là tout à l'heure. En deuxième partie, nous parlerons d'immigration et d'insécurité. Nous nous pencherons sur l'exaspération des Anglais et des Irlandais. Et nous aurons au téléphone notre ami Jean Bexon, qui est journaliste à Boulevard Voltaire et qui est directement en Irlande en ce moment. Et puis nous aurons notre traditionnel clin d'œil culture que vous attendez tous, ils sont tous fin prêts, ils ont tous préparé des œuvres à voir, des livres, des expos, que sais-je. Mais auparavant, notre traditionnel tour d'actualité, qu'avez-vous retenu de l'actualité de cette semaine? Jean-François Coulon-Desart fait la moue.
J'ai retenu ce qui m'a marqué, ça s'est passé aujourd'hui, en tout cas son enterrement, c'est l'enterrement de Bernadette Chirac, la mort de Bernadette Chirac, parce que c'est vraiment une page politique qui se tourne. D'abord, elle est morte, elle avait 93 ans, elle était née évidemment au Chaudron de Courcelles, et ça a été la première dame. D'abord, elle a façonné le statut de première dame, finalement. Elle a passé des témoins, et ça a été la seule première dame à exercer un mandat politique, puisqu'elle était élue en Corrèze, une terre qu'elle aimait beaucoup. Et elle s'est fait une place à l'ombre de son mari, parce que quand même Jacques Chirac prenait beaucoup, beaucoup de place. Et elle a réussi, elle aussi, à se faire sa place. Et ça a été un couple indissociable. C'est-à-dire que je suis absolument convaincu que derrière un tout grand homme, il y a une grande dame. Ça a été une grande dame. Parce que Chirac n'aurait pas fait ce qu'il a fait si elle n'avait pas été derrière.
Absolument.
Donc voilà, c'est ce qui m'a marqué.
Beaucoup de force d'âme.
Une force d'âme.
Elle s'appelait elle-même la tortue. Lui, c'est le lièvre, moi je suis la tortue.
Oui, puis il y avait eu ce film formidable où Catherine Deneuve jouait son rôle.
Potiche.
Qui était un film absolument génial, où elle a renversé la situation, et c'est elle qui a fait le deuxième mandat de son mari, qui s'est transformée complètement. C'était une femme... On perd quelqu'un. La France perd quelqu'un.
Ouais, absolument. Yves-Marie Sevilla.
Oui, on a vu à cette occasion notamment des images impressionnantes où elle est dans sa voiture et elle sort elle-même de l'Élysée en allant à la messe, faire ses courses, voir ses amis. Enfin, je pense que c'est assez symptomatique d'une connexion au peuple qu'on a totalement perdue. Aujourd'hui,
ce serait...
inenvisageable de voir un grand dirigeant français avoir cette simplicité de vie, mais ça démontre le changement d'époque que soulignait Jean-François.
Et elle avait accepté, par parenthèse, les frasques de son mari, ce qui aujourd'hui, évidemment, dans l'ambiance féministe parfois un peu rude qu'on connaît, fait un peu bizarre, quoi. Enfin,
mais non, hein, pourquoi voulez-vous que ça fasse bizarre?
Écoutez, non, mais c'est un peu l'ancien monde, quoi.
Vous savez ce
c'est
que disait la Brazette Tuzzo, qui était la femme de Paul Morand, mm-hmm. à une de ses amies qui lui racontait que son mari avait encore fait des frasques. Mm-hmm. Donc, cette amie lui fait le détail, ce qui est très élégant, et elle lui a dit, et vous, chère amie, vous avez un mari qui ne plaît pas? Voilà, tout est dit.
Merveilleuse réponse. Voilà, Hubert Coudurier est avec nous. Je vous le présente tout à l'heure. Nous parlerons avec lui donc du mystère Marine Le Pen. Mais Gérard Gachet, donc l'actualité de la semaine pour vous.
Bah moi, l'actualité de la semaine, Dieu sait qu'on en a beaucoup parlé tous les jours et un peu partout, c'est l'affaire Patrick Bruel. Alors bien sûr, c'est pas à moi, mais c'est à la justice de dire si les faits reprochés à Patrick Bruel sont avérés, et s'ils le sont. Je pense que tout le monde sera d'accord pour dire qu'ils sont scandaleux et méritent d'être durement sanctionnés. Mais enfin, pour l'instant, que je sache, Patrick Bruel n'est ni jugé, ni a fortiori condamné. Et ce qu'on constate, c'est que, en tout cas pour les gens célèbres, ils sont condamnés avant d'avoir été jugés, et éventuellement déclarés coupables. Et ce qui me gêne un peu dans tout cela, c'est que on constate que la justice médiatique, en tout cas pour les gens célèbres qui intéressent les médias, la justice médiatique est beaucoup plus rapide et peut-être même beaucoup moins juste que la justice des tribunaux, que la justice judiciaire. Donc moi je constate que cet homme-là n'a été ni jugé ni condamné, il le sera peut-être, et s'il le mérite, il le sera, mais sa carrière en tout cas est terminée. Sa carrière de chanteur, d'acteur, de producteur est terminée. Il avait gagné beaucoup d'argent d'ici là, mais il va maintenant, ça va lui coûter extrêmement cher, déjà sur ce plan-là, sur le plan financier. Et puis on verra bien les suites judiciaires qui arriveront ou pas.
Jean-François Coulon des Arts.
Non, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que ce type a construit une carrière, il a 67 ans. Il est au sommet et en quelques jours, tout s'effondre, tout s'écroule. Donc c'est un destin amusant, mais ce n'est pas le seul. Regardez Poivre d'Arvor qui est aussi dans les mêmes méandres que Bruel. Mais vous avez tout à fait raison, la meute médiatique lui a mis la tête sur le bio. Heureusement qu'on ne vit pas sous la Révolution française, en tout cas sous la Terreur, parce qu'il aurait déjà été guillotiné. Hein.
Il y a eu Gérard Depardieu aussi, lui a été condamné.
On lui reproche si c'est vrai, etc., il sera condamné, la justice passe. Il n'y a pas de problème. Enfin, il ne vous a pas échappé que la justice est très, très lente, quand même. Hein.
On le voit à travers beaucoup d'affaires.
Yves Marie Savia, je vous donne la parole tout de suite, mais j'ai, si je peux me permettre, une toute petite divergence avec notre ami Gérard Gachet, dans la mesure où j'ai toujours l'impression qu'on confond l'appréciation qu'on peut avoir du comportement d'une personne avec la sphère judiciaire. Il y a la sphère judiciaire, il y a la sphère journalistique et il y a la sphère populaire. Les gens ont le droit d'avoir un avis sur le comportement de Patrick Bruel.
Bien sûr.
Bon, et les gens ont le droit d'enquêter de leur côté sans absolument avoir affaire à la justice et de se faire eux-mêmes aussi un avis sur la base de faits qu'ils auront vérifiés, enquêtés, etc. Et puis après ça, il y a les tribunaux qui font leur travail et qui présument innocents tous ceux qui leur sont confiés et qui donneront un jugement à la fin. Mais j'ai l'impression qu'on confond toujours ces trois étages du jugement.
Je suis d'accord avec vous, cher Marc, mais oui, tout à fait. Mais je pense aussi que la ruine professionnelle d'un homme ne devrait intervenir qu'après une condamnation judiciaire et pas préalablement.
Il est bon que les médias, qui ont tout à fait le devoir,
Jean-François Coulon-Lézard,
évitent peut-être aussi de se faire manipuler par une certaine frange de la population, par une certaine certaine frange, je trouve pas d'autres mots. C'est tout.
Et moi, je voulais simplement
Yves-Marie Sévilla, pardon,
souligner que Marine Le Pen, non rancunière, a effectivement souligné cet aspect important, avançant la présomption d'innocence dont Patrick Bruel bénéficiait. Je dis non rancunière parce qu'effectivement, le chanteur, grâce à son, avait utilisé son aura pour diffuser à l'envi sur les plateaux toute la haine qu'il vouait aux idées d'extrême droite et au Front National, Rassemblement National.
Absolument. Allez, moi j'ai ma petite actu aussi. Moi je vous emmène en Argentine et un peu sur une nouvelle économique, puisque notre ami Javier Milei, président argentin, a fêté donc ce 10 juin les 2 ans et demi écoulés depuis son accession à la magistrature suprême d'un pays qui est quand même compliqué. Et c'est l'agence de notation Standard & Poor's qui s'est chargée de lui apporter le gâteau d'anniversaire. Elle a donc ce 10 juin, le même 10 juin, relevé la note de la dette souveraine de l'Argentine, donc de CCC plus à B-, c'est-à-dire qu'elle s'est améliorée, et Standard & Poor's, qui ne cesse de dégrader la France, souligne que Javier Milei a réduit les vulnérabilités économiques et qu'il a amélioré progressivement la liquidité externe du pays, que ces réformes posent les bases de la poursuite de la reprise économique. En bref, cette agence prévoit notamment un bond de 2,7% du PIB. Je rappelle que nous, on est en dessous de 1%, si ma mémoire est bonne, de prévision du PIB pour 2026. Nouveau succès quand même, même s'il y a encore des zones d'ombre, même si tout n'est pas parfait en Argentine, même s'il n'a pas tout réussi, il est quand même en train de relever ce pays qui était tombé très bas.
Donc peut mieux faire, c'est ce qui a marqué sur sa copie, peut mieux faire. Donc il ne doit pas être...
Pas mieux faire, mais a déjà pas mal fait quand même. Hein, en tout cas mieux que celui qui est au pouvoir en France.
Il ne doit pas être client de M. Pigas alors, parce que sinon, oulala.
Ah non, je ne crois pas qu'il soit client de M. Pigas.
Mon actualité.
Yves-Marie Sévillard.
Vous l'avez bien en tête.
Oui.
Moi, je voulais parler à nos auditeurs de Charles Alloncle, qui a déposé un article 40 contre la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte. C'est donc effectivement une information exclusive que j'ai délivrée pour Boulevard Voltaire. Effectivement, parce que nos confrères de Marianne ont révélé cette semaine que, contrairement à ce que Delphine Ernotte, sous serment, avait dit lors de son audition par la commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public, qu'une agence privée était intervenue, notamment lors de 2 réunions et d'un déjeuner de travail auquel Delphine Ernotte a participé, pour distiller des conseils sans qu'on ait exactement tous les contenus, mais en tout cas une agence privée en communication, spécialisée en communication de crise, est intervenue auprès des salariés de France Télévisions, alors que effectivement sous serment Delphine Ernotte avait affirmé le contraire lorsque Charles Alloncle lui avait posé la question. Donc effectivement il y a des soupçons de parjure. Alors le groupe France Télévisions, c'est très grave, le groupe de France Télévisions se défend, évoque une fumisterie, et la défense est quand même, semble-t-il, relativement légère, parce qu'ils évoquent des conseils dispensés hors contrat, voilà exactement, donc gratuitement, et qui auraient été des simples échanges d'expérience. Ça semble effectivement étonnant. Donc on verra si effectivement, judiciairement, s'il y a une suite, mais effectivement, Delphine Ernotte est quand même, encore une fois, à mon sens, fragilisée dans cette affaire.
Ouais. Dans un nouveau rebond sur cette affaire France Télévisions, qui a des ramifications nombreuses.
Jean-François, une des ramifications,
nous avons beaucoup parlé
ici. Une des ramifications, c'est le rapport à l'oncle. Regardez l'ARCOM, qui tire les oreilles de France Inter et puis de France Info.
Je finis
juste la phrase, après vous développerez, mais 60% du temps de parole accordé aux représentants du RN, c'est entre minuit et 6 heures du matin. C'est formidable.
Non, mais voilà. Alors, justement, c'est l'heure de l'édito. Parler de ce sujet, cher Jean-François, merci de l'avoir introduit. Radio France a été flashée donc par l'ARCOM, c'est l'ancien CSA, en pleine manipulation anti-Rassemblement National pendant les élections municipales, juste après ce petit son.
Reste en courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire.
L'ARCOM, donc l'ancien CSA, a publié ce 11 juin une sanction, une mise en demeure destinée à Radio France pour manquement grave aux règles du pluralisme politique. Un simple constat qui en dit long et prête même à sourire tant il confirme ce que chaque Français sait depuis longtemps, l'analyse des temps de parole des personnalités politiques diffusées sur les antennes de France Inter et de France Info entre le 1er janvier et le 31 mars 2026, nous dit l'ARCOM, fait apparaître que les prises de parole du Rassemblement national sont très majoritairement diffusées la nuit et se traduisent par une sous-représentation de ce parti à l'antenne le jour. Fin de citation. Voilà le constat, ce que constate benoîtement l'ARCOM. Sur le papier, donc, les équilibres sont respectés. En réalité, le temps de parole du principal parti d'opposition au pouvoir en France est majoritairement diffusé aux heures où plus personne n'écoute. Ainsi, ce que disait Jean-François Collot-Désart à l'instant, près de 60% du temps de parole accordé aux représentants du RN sur France Inter a été diffusé entre minuit et 5h59. C'est ce que détaille l'ARCOM. Je cite l'ARCOM. Cette proportion, eh bien, elle dépasse 70% sur France Info. C'est tellement simple, hein. On diffuse la parole du pouvoir et de l'ultra-gauche quand la salle est pleine, et puis celle de l'opposition quand elle est vide. De son côté, le gentil contribuable Rassemblement National, lui, il est fermement prié de financer sa propre désinformation. Radio France pèse, rappelons-le, pour 666,2 millions d'euros annuels qui sont pris sur le budget de l'État. La manipulation sans peine. Évidemment, le Rassemblement National s'est ému. Ce comportement n'est plus supportable, a écrit Marine Le Pen sur X. Jordan Bardella a posé avec raison la question démocratique, censée faire preuve de pluralisme politique et d'impartialité. Le service public de l'audiovisuel a donc sciemment mis à l'écart le premier parti de France et ses millions d'électeurs. Sommes-nous encore dans une démocratie fonctionnelle? Voilà la question de Jordan Bardella sur X. Contacté par Boulevard Voltaire, le Rassemblement National précise qu'il étudie toutes les possibilités de réaction. Alors on aura peut-être une question à l'Assemblée, par exemple, ou ailleurs. De son côté, Radio France plaide la simple erreur technique. Le groupe a changé en janvier dernier son logiciel pour comptabiliser les temps de parole. Et ce fichu logiciel ne distingue pas le jour de la nuit. Si même le logiciel s'y met, vous voyez, donc l'erreur est corrigée, assure Radio France, qui a été flashée, cela dit, en pleine récidive, parce que l'ARCOM précise, j'ouvre encore les guillemets, que ces constats avaient déjà donné lieu en 2025 et en 2026 à un rappel de Radio France à ses obligations. J'en conclus. En attendant, donc, ce déséquilibre a faussé le jeu démocratique lors des dernières municipales et de ce début de campagne présidentielle. L'État français, qui est si soucieux de donner des leçons de démocratie en Hongrie, en Russie et ailleurs, ira-t-il à Canossa? L'Union européenne, qui a la sanction si facile envers les régimes dits illibéraux qui ne respectent pas les droits de l'opposition, sanctionnera-t-elle la France sur ce point? L'Union européenne saura-t-elle distinguer le jour de la nuit? Réponse à suivre dans les prochains jours. Voilà. Jour et nuit, les amis, vous y croyez? La confusion, Gérard Gachet.
Une petite remarque pour rester, comme on dit, objectif, en tout cas honnête. On a fait le même reproche, mais en sens inverse, à CNews.
Effectivement, Europe, j'allais le souligner.
On l'a dit quand même qu'ils passaient, les gens qui n'étaient pas de leur bord, plutôt la nuit. La grosse différence, c'est que ce n'est pas service public. Ce sont des radios, des chaînes privées, voilà, qui ne sont pas subventionnées par l'argent public. Mais bon, on peut concevoir qu'effectivement ce genre de méthode soit répandue et pas uniquement réservée à la gauche militante.
Et je rajouterais que le service public s'est empressé de souligner cette information, que CNews ne fasse passer les candidats
de gauche,
voilà, de gauche la nuit. Ouais. Alors que eux-mêmes, effectivement, il ferait mieux de regarder leur poutre.
Ah oui. Mais est-ce qu'il va y avoir une sanction? Est-ce que l'ARCOM va sanctionner? Est-ce qu'il y a une sanction financière? Parce que dès que c'est le privé, l'ARCOM tombe à coups de millions d'euros sur les chaînes, notamment le groupe Bolloré. Est-ce qu'il va y avoir une sanction?
Oui, mais là, il y a une gradation des sanctions, vous savez, à l'ARCOM, et là, on en est à la mise en demeure, et je crois que la mise en demeure ne s'accompagne pas d'amende.
Au bout de 10 mises en demeure, vous avez droit à un blâme, au bout de 50 blâmes, vous avez droit à une faute, et puis après, vous aurez une sanction.
Peut-être, voilà. Hubert Coudurier.
Bah, je vous remercie de m'inviter, parce que j'ai été récemment déprogrammé de France Info TV.
Ah,
je devais participer pour ce livre pour lequel vous m'invitez, à l'émission de Nathan Devers et Paul Melun, et on m'a signifié que l'émission était annulée. Donc, ah bon, merci de m'inviter.
Eh ben, écoutez, merci.
Eux aussi, je crois que leur émission est en danger.
Oui.
L'émission de Nathan Devers et Paul Melun. Oui, je crois qu'ils sont.
Ah oui, non, ben donc,
non seulement on ne parle, pas, annulé, on parle pas du RN à France Inter et à France Info, mais en plus, on a parlé des journalistes qui en parlent.
C'est ça. Voilà. Et incroyable. Ben, écoutez, c'est une information. Ça va tout à fait, en tout cas, dans le fil de ce qu'on vient de dire. Il y a un petit problème avec le RN, peut-être, sur le service public.
Non. Petit problème.
Peut-être. Hein, pourtant, mais je vais en parler, votre livre présente un immense intérêt. Et d'ailleurs, nous allons en parler. Alors, nous parlerons en deuxième partie d'immigration, d'insécurité. On se penchera sur l'exaspération des Anglais et des Irlandais. Et nous aurons au téléphone Jean Bexon, qui est journaliste à Boulevard Voltaire, et qui est en ce moment à Belfast. Après être passé par Londres, il a couvert toutes ces manifestations qui secouent fortement à la fois la population britannique, irlandaise, et aussi les journaux britanniques et irlandais, toute la sphère médiatique. Nous aurons évidemment notre clin d'œil culture, comme d'habitude. Mais d'abord, ira-t-elle à l'Élysée, Marine Le Pen, face à son destin ?
Changer aussi peut-être le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature.
Non, non, alors ça sera pour après. Juste la petite virgule. Bon.
Bah alors la technique, qu'est-ce qu'elle fait ?
Restons courtois. Marc Baudrier.
Voilà, le 7 juillet, dans un peu plus de 3 semaines, la Cour d'appel de Paris décidera de l'avenir de Marine Le Pen. Si la Cour confirme le jugement de première instance, la candidate du RN ne pourra pas se présenter en 2027 au présidentiel de 2027. Ce destin sur un fil, vous lui avez consacré un livre absolument passionnant, Hubert Coudurier.
Merci.
Son titre, Le mystère Marine Le Pen, il paraît aux éditions Plomb. Bonjour Hubert Coudurier.
Bonjour.
On se connaît depuis longtemps. Vous êtes directeur de l'information du quotidien Le Télégramme, ex-Télégramme de Brest. Vous présidez sa chaîne de télévision. Vous faites partie du comité pédagogique de l'École supérieure de journalisme de Paris. Et le destin de Marine Le Pen a des allures de tragédie grecque, un peu. Si la fille de Jean-Marie Le Pen écrase aujourd'hui les intentions de vote à l'élection reine, c'est le résultat de décennies d'efforts et d'intelligence politique sur 2 générations, Le Pen père et Le Pen fille. C'est son œuvre. Paradoxe, seul son poulain Jordan Bardella, l'homme qu'elle a construit, obtient désormais parfois de meilleurs sondages qu'elle-même. Marine Le Pen est-elle aux portes du pouvoir? Quels sont ses vrais liens avec Jordan Bardella? Qui est vraiment Marine Le Pen? Comment en est-elle arrivée là? On va tenter de lever le voile sur le mystère Marine Le Pen. Alors vous, vous êtes, Hubert Coudurier, du bon côté du cordon sanitaire, vous n'êtes pas un militant au Rassemblement National, hein, vous le précisez, et pourtant vous l'avez écrit...
J'ai même voté pour François Mitterrand en 1981.
Ah, bon.
Et c'était un peu pour emmerder mon père à l'époque.
Ou alors,
les gens de droite qui l'ont fait aussi.
Ah oui, je crois,
Ou alors c'était pour suivre les consignes de Chirac.
Absolument. Mon père était très chiracien.
Je ne suis pas sûr que les auditeurs de Radio Courtoisie vous donneront pour autant l'absolution.
Mais... je le crains.
Donc, vous l'avez rencontrée et elle a accepté de vous parler. Comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que ça a changé un petit peu l'image que vous aviez d'elle, vos rencontres avec Marine Le Pen? Qu'est-ce que vous avez peut-être découvert de cette personnalité?
En fait, j'avais fait une biographie juste avant de Valérie Pécresse, que j'ai revue d'ailleurs l'autre jour, et pour qui j'avais une certaine sympathie, parce que je trouve que c'est une femme de qualité, qui pose bien les problèmes, et qui est courageuse, et qui sait gérer aussi. Ce qui est quand même un problème dans notre pays aujourd'hui, c'est qu'on a des dirigeants qui ne gèrent plus. Mais je me suis rendu compte, au vu de son score quand même assez modeste, que le pouvoir n'était plus là, pour parodier le livre de David Halberstam, Le pouvoir est là, mais qui s'adressait en fait aux médias américains, et qu'il fallait quand même que je me penche un peu plus sur son histoire, sachant que j'avais suivi le père, mais pas énormément, et que j'étais surtout spécialiste de la droite classique, puisque j'ai beaucoup couvert les les septennats puis quinquennats de Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, qui m'ont passionné d'ailleurs, parce que ça a été rebondissement.
Vous avez écrit beaucoup de livres politiques.
J'ai fait 3 ou 4 livres là-dessus, oui. Ouais. Et donc, Marine Le Pen, j'avais une anecdote, c'est qu'il y a une quinzaine d'années, je l'avais vue arriver dans un restaurant où on l'attendait avec quelques confrères, en pleurs. Et on avait compris qu'en fait, elle venait d'euthanasier l'un de ses chats.
Voilà, vous commencez votre livre par cette scène.
Et donc, on a éprouvé un moment de compassion pour elle, jusqu'à ce qu'elle se reprenne assez vite d'ailleurs. Et on a reparlé de cette anecdote. Et puis j'avais aussi en souvenir son voyage raté à l'île de Sein, où elle avait été huée par les pêcheurs. Il se trouve que j'avais rencontré le directeur général du RN de l'époque, qui s'appelle Gilles Pénel, qui est maintenant député européen. Et il me dit un jour, la patronne veut te voir. C'était dans un hôtel à Brest, puisqu'il y avait une conférence de presse. Et c'était entouré d'un cordon de CRS avec ce qu'elle appelait d'un ton assez ironique les punks à chiens et tous les gauchistes finalement qui empêchaient cette conférence ou qui voulaient empêcher cette conférence de presse de se tenir. Et je lui ai dit...
Comme d'habitude et fréquemment en Bretagne.
Oui, vous avez vu récemment à Bourbriac, il y a eu également des problèmes avec Eric Tegner quand il a lancé sa bière.
Ouais.
Bon, je lui ai dit, écoutez, moi je ne vous connais pas ou très peu, j'ai envie de connaître le Rassemblement National, le nouveau Front National. Comment ça fonctionne? Ça a quand même beaucoup évolué. Je connais l'histoire, mais je ne connais pas les acteurs. Et donc, est-ce que vous me laissez enquêter? Et je pense qu'elle a filtré un certain nombre de rendez-vous, mais globalement, elle m'a laissé une assez grande liberté. J'ai juste un petit, à mon avis, Frédéric Chatillon, que j'aurais aimé pouvoir interroger plus longtemps. J'ai pu le choper au téléphone à Rome. Ah, il m'a parlé d'ailleurs de façon très intéressante de la relation entre elle et Giorgia Meloni. Puis après, je pense qu'elle a dû lui dire de se taire.
Ouais. C'est pas impossible.
Voilà.
C'est pas impossible.
Et voilà. Puis j'ai commencé à enquêter. J'ai fait ce que font tous les journalistes, c'est-à-dire une centaine d'interviews. J'ai rencontré. En fait, les gens qui sont sur le devant de la scène aujourd'hui ne sont plus du Front National, en fait. C'est Sébastien Chenu qui vient de l'UMP. C'est Jean-Philippe Tanguy qui vient de Demain la France. C'est alors François Durvy maintenant qui va devenir peut-être député, mais qui est conseiller économique de Jordan Bardella, qui travaillait avec le Monsieur Sterrin, ce milliardaire qui vit en Belgique, mais qui a, paraît-il, démarré chez Philippe de Villiers. Mais historiques ne sont plus dans le paysage.
Est-ce que vous avez été surpris? Est-ce qu'il y a des aspects qui vous ont vraiment surpris, vous qui veniez un petit peu de l'extérieur, ce que vous venez de nous dire, et qui vous êtes plongé dans à la fois la personnalité de Marine Le Pen et l'histoire un peu aussi du Rassemblement National?
Écoutez, ce qui m'intéresse en fait dans cette histoire, c'est leur résilience. Je pense que la France affronte aujourd'hui des temps très compliqués. J'étais en Chine quand il y a eu les émeutes du PSG, tout le monde regardait ça.
En Chine
Ah bon? Oui, j'ai fait un voyage tous les ans.
Non, mais les Chinois regardaient ça?
Entre autres, ils ne regardent pas que ça, mais tous les ans j'emmène mes lecteurs faire un voyage, disons, utile.
Et lecteurs du Télégramme.
Voilà, lecteurs du Télégramme. Et on a vu ça, et on était un peu effarés quand même pour l'image de la France. Et j'ai discuté avec des Chinois qui sont, le régime est dictatorial, mais dans le fond, ils parlent quand même assez facilement, et les gens avec qui nous étions parlaient très bien le français, et ils nous ont dit... chez nous, on peut discuter de tout, et c'était assez libre comme parole. On peut s'engueuler avec un policier dans la rue, mais on peut pas le toucher. Attention, on ne peut pas toucher un policier.
Ouais. Voilà. C'est pas mal, hein. C'est peut-être une règle à installer.
Et voilà. Donc, et finalement, j'ai eu envie de comprendre pourquoi et peut-être le RN serait une solution. Non pas en raison de son passé qui remonte toujours à la surface et que la gauche lui renvoie à la figure, non pas en raison de sa crédibilité économique, puisqu'il y a des questions qui se posent, mais bon. Mais parce qu'ils ont une résilience, que Marine Le Pen est une femme qui a été humiliée toute sa vie, qui s'est battue à travers son envie de réparer la France, de se réparer elle-même.
Alors, question toute simple, est-ce qu'elle l'a lu?
Oui, alors elle l'a lu.
Et qu'est-ce qu'elle vous en a dit?
Parce que souvent les hommes politiques vous disent non, je n'ai pas lu.
Alors, et qu'est-ce qu'elle en a dit?
Elle m'a dit un seul truc, c'était assez drôle d'ailleurs, parce que j'étais dans un restaurant avec Jean-Michel Blanquer et quelques confrères, et puis j'ai aperçu qu'elle était dans, à l'autre bout de la salle, et c'était dans un endroit qui s'appelle le Fitzgerald, ou qui est maintenant l'équivalent, l'héritier d'Edgar, Edgar, ou ouais. du Fouquet, ouais, ouais. où nous avions nos déjeuners de presse il y a 20 ans. Et puis, elle sort avec, je crois qu'il y avait Philippe Olivier avec elle, son conseiller, son beau-frère, puisque c'est le mari de Marie-Caroline, sa sœur. Et je me lève et je lui dis, je ne sais pas trop comment elle allait réagir, je lui dis, Madame Le Pen, vous voyez, ça se termine, l'histoire se termine dans un restaurant, là où elle a commencé, en fait, avec l'histoire du chat. Et là, elle me regarde, et puis elle se retourne vers les journalistes, et elle leur dit, je tiens à préciser que Jordan n'a jamais porté de gourmette en or. Parce qu'il y avait une phrase dans laquelle un député me dit... Ouais. Je l'ai connu au carré, c'est-à-dire au QG. C'était un petit kéké en jean blanc avec une gourmette en or.
Alors, je crois qu'en fait, j'ai lu ça dans votre livre.
Je crois qu'en fait, il y a une petite erreur. C'était pas une gourmette en or, c'était un collier.
C'était du plaqué or.
Voilà. Bon, enfin bref, c'est la seule chose. Et moi, je trouve ça assez marrant de voir la manière dont, comme une louve, elle protège son dauphin.
Ah, oui, oui.
Parce qu'elle n'a pas toujours été
très
comme
étonnant.
Ça avec,
on en parlera de
avec
de
ses Bardella. Dauphins. Hein.
On en parlera. Gérard Gachet.
Oui, moi j'ai une question de vos contacts avec elle. Est-ce que vous en déduisez qu'elle avait vraiment envie au départ de faire de la politique? Car la question s'est souvent posée. On avait quand même l'idée qu'elle voulait être, bon, elle a été d'ailleurs avocate, mais que l'idée de la politique militante, au départ, n'était pas son choix de vie.
Je suis d'accord. C'est d'ailleurs une des raisons du titre, Le mystère Marine Le Pen. Et Gilbert Collard, qui m'a pas mal inspiré, parce que c'est un personnage, il faut bien reconnaître, assez marrant, même s'ils disent que bon, bah, il est ingérable et que finalement, il n'est pas fait pour faire de la politique, mais il est plus fait pour la commenter. Mais dit, dans le fond, son rêve, ça aurait été d'être une grande avocate. Et j'ai vu le bâtonnier, là, Pierre-Olivier Sûr, qui m'a dit qu'à l'époque... elle a été un peu bloquée à cause de son nom. Et finalement, elle a fini par entrer à la direction juridique du Front National. Et lui, il est passionné, elle regarde, fait entrer l'accusé, toutes les grandes affaires judiciaires la passionnent. Mais bon, je crois qu'elle a voulu aussi, c'est une des grandes œuvres de sa vie, c'est réhabiliter son père. Et en même temps...
Son père ou le combat de son père?
Parce qu'elle l'a réhabilité en excluant quand même.
Ouais, donc, oui, mais je crois qu'elle ne pouvait pas faire autrement. Parce qu'en fait, il lui a passé le pouvoir. À un moment donné, il a préféré lui donner le pouvoir. Parce qu'elle a quand même... s'est battue contre sa sœur et son beau-frère, Philippe Olivier, qui avait participé au poupouch de Maigret.
De Bruno Maigret.
Bon, et elle a pris la défense de son père. Et puis, à un moment donné, son père lui a donné le pouvoir contre le dauphin, qui était Bruno Gollnisch, dont il a dit, dont Le Pen a dit, le rôle des dauphins, c'est de s'échouer sur le sable. Et il lui a vraiment donné le pouvoir. Elle était d'ailleurs un peu crainte dans l'entourage de Gollnisch. On l'appelait la garde rouge, c'est ce qu'elle m'a raconté, parce qu'elle avait un tailleur rouge. Bon. Puis à un moment donné, Le Pen, il a donné le pouvoir, mais en fait, il a voulu le reprendre. Supportait pas de n'être plus.
Ah oui, en fait, il lui a donné pour pouvoir le conserver, plus qu'avec Gollnisch, parce qu'elle était contre Gollnisch, donc...
Ouais, et puis Gollnisch n'était pas très fidèle. Combatif, c'est Gollnisch, un intellectuel, etc. Et au final, donc, elle lui a dit, écoute, elle lui a dit, Marine, pourquoi est-ce que tu me vires? Pourquoi est-ce que tu me vires du parti que j'ai fondé?
Que j'ai créé.
Il y a une phrase qu'on m'a rapportée, mais écoute, papa, tu as fait assez de conneries comme ça. Et donc, elle est obligée de le virer, mais ça, elle le vit mal, en fait. Et sa culpabilité n'est pas éteinte. Et elle m'a dit qu'elle n'a pas encore fait le deuil de son père.
Ouais.
Elle a des sentiments mêlés. C'est un homme avec qui elle s'est construite, contre lui, qu'elle a aimé, détesté.
Dans la photo où elle est en larmes quand elle apprend la mort de son père, est quand même un document...
C'est la photo prise dans l'avion qui revenait de Mayotte, photo publiée par Paris Match, puis ensuite retirée du site. Mais certain que ça a été un grand homme de sa vie, oui. C'est. Ouais. Puis il y a eu aussi différentes humiliations, il y a eu différentes épreuves.
Le débat.
Il y a eu le débat. Ouais, après,
on va parler de tout ça.
Restons courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire.
Et avec Yves-Marie Sévilla, Jean-François Coulon des Arts et Gérard Gachet, nous recevons Hubert Coudurier pour son livre Le mystère Marine Le Pen chez Plon. Alors, on va parler des sondages, du contexte politique, on va parler du tempérament de Marine Le Pen, on va parler des épreuves qu'elle a traversées, de son avenir. On se demandera avec vous, Hubert Coudurier, si elle saura gouverner, tout simplement. Je voulais mettre le doigt sur son côté très populaire, peut-être pour introduire tout ça. Visiblement, ses propos ont un écho considérable. Hein. On l'écoute sur l'affaire Liana et les désordres de la justice. Elle répondait aux médias dans la salle des pas perdus, de l'Assemblée nationale. C'était cette semaine, le 9 juin.
Changer aussi peut-être le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature ?
Oui, mais en réalité, oui, bien sûr, on peut apporter des améliorations au fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, mais il faut aussi que les politiques assument leurs responsabilités. Or, je suis désolé, mais dans un certain nombre de cas, c'est aussi aux ministres de faire preuve de fermeté à l'égard des conséquences disciplinaires qui touchent les magistrats, et ils ne le font pas non plus. Vous voyez ? Voilà, et on en arrive dans une situation, je vous parlais du manque de moyens et de l'explosion de la criminalité et de la délinquance, on en arrive à une situation où les magistrats, il faut bien le dire, et les auxiliaires de justice croulent tellement sous le nombre des plaintes que le plaignant devient un gêneur.
Voilà les propos de Marine Le Pen qui s'est trouvé hein, l'oreille du peuple et l'oreille des gens. Alors je rappelle les sondages, avant qu'on continue à parler d'elle, qui sont tombés jeudi. Hein. Qui a les compétences pour être un bon président ? C'est la question qui a été posée par Verian Group pour le Figaro Magazine. Marine Le Pen, 41%, plus 5 points. Bardella, 41%, plus 4 points. Édouard Philippe, 34%, moins 1 point. Donc on voit que le tandem Marine Le Pen et Jordan Bardella non seulement écrase la concurrence, mais qu'en plus ils subissent une dynamique absolument vraiment très forte. Et puis après ça, on a le deuxième peloton, hein, assez loin derrière. Gabriel Attal est à 27% avec une petite dynamique. Bruno Retailleau, 24% sans dynamique. François Hollande, 18%, est à la baisse, etc. Je ne vais pas tous vous les donner, mais ça montre quand même que dans les intentions de vote et dans la perception que ces différents personnages ont les compétences pour devenir un bon président de la République, eh bien Marine Le Pen et Jordan Bardella sont au coude à coude, d'une part 41% tous les deux, et qu'ils sont tous les deux en très forte progression en ce moment. Hubert Coudurier, le cordon sanitaire, est-ce qu'il s'effrite vraiment au vu de ces sondages, ou est-ce que c'est une illusion d'optique ?
La marée monte. C'est pas parce que je suis breton que je vous dis ça, mais c'est quand même un parti qui aujourd'hui touche 35% de l'opinion. Quand il y a eu cette dissolution... cette dissolution surprise du président Macron, ça a été tout de même une manne qui est tombée sur le parti, puisque ils étaient à Hénin-Beaumont ce soir-là, et ils voyaient le nombre de députés augmenter, elle ne les connaissait même pas tous et toutes, et donc elle était en larmes d'ailleurs, de voir à quel point son parti est en train de devenir le premier parti de France. Je ne sais pas si ce sera elle ou Jordan Bardella qui sera candidat. Je ne sais pas s'ils seront élus la fois prochaine. Mais ce sera sûrement un jour ou l'autre. Ils finiront par prendre le pouvoir. C'est inéluctable.
Yves-Marie Sévilla.
Non, simplement, effectivement, sur le cordon sanitaire, souligner que généralement, c'est en cas de second tour qu'il devient vraiment opérant. Vous faisiez... allusion Hubert Coudurier à cette législative anticipée où on imaginait possiblement, effectivement, compte tenu des résultats du premier tour, un Jordan Bardella Premier ministre. Il n'en fut rien compte tenu du fameux barrage républicain. Voilà, je note par rapport, Marc, vous évoquiez les sondages. On reparlera effectivement, d'après ce que j'ai compris, du fil de notre propos de Jordan Bardella un peu plus tard. Mais là, pour la première fois, contrairement au sondage jusqu'ici concernant Marine Le Pen en cas de second tour à l'élection présidentielle, Jordan Bardella pourrait l'emporter, quel que soit le cas de figure de ses adversaires, ce qui n'était pas jusqu'ici le cas d'une Marine Le Pen, et qui n'est pas le cas toujours lorsqu'elle est sondée.
Mais la dissolution voulue par le président, c'était un piège politique pour le Front National, parce que son objectif, c'était quoi? C'était de mettre Jordan Bardella à Matignon, et de dire, regardez, en deux ans, comment ils sont décrédibilisés, il n'y arrive à rien, etc.
Il l'a envisagé. Pour,
voilà, c'était ça, ce qu'il y avait de secret, en fait. Mais ça a raté.
Ouais. Oui, parce que peut-être heureusement, Hubert Coduray.
Non, mais il l'a envisagé et puis il a reculé.
Comme toujours.
C'est-à-dire qu'il ne l'a pas assumé, finalement.
Et donc, d'où les alliances NFP, etc.
Mais de toute façon, aujourd'hui, il leur manque encore quand même 10% de l'électorat. Alors, peut-être que le fait de se retrouver face à Jean-Luc Mélenchon va balayer cet obstacle. Et vous avez encore chez un certain nombre d'élites françaises des réticences à l'égard du RN en disant qu'ils n'ont pas la compétence, il y a tout ce passé, etc. Et donc, il y a une espèce de... Alors, indépendamment de la gauche qui les attaque avec les vieilles recettes et qui crée des réflexes pavloviens, il y a une espèce de... Les élites n'en veulent pas, parce que c'est fondamentalement... Alors, je dis, c'est un parti populaire.
Vous n'avez pas l'impression, Hubert Coduray, qu'elles se font grignoter, qu'il y a une poussée des forces conservatrices un peu irrémédiables, y compris chez les élites?
Oui, mais enfin, on est un pays particulier quand même, la France. Donc, on a une tradition révolutionnaire. On n'a pas eu de révolution conservatrice, contrairement aux pays anglo-saxons. Et je pense que, pour ne pas reprendre... la phrase de François Mitterrand, quand il disait « il faut purger l'hypothèque Rocard », il va falloir purger l'hypothèque du RN, parce qu'on ne peut pas garder comme ça un tiers de la population à l'écart du gouvernement.
D'autant que c'est un tiers qui grossit, Gérard Gachet.
Oui, vous parlez de révolution conservatrice, mais est-ce qu'un des éléments qui empêche le Rassemblement national de profiter pleinement d'une révolution conservatrice, est-ce que ce n'est pas son programme économique? Qui, contrairement à ce qui se passe en Italie ou ailleurs avec la droite nationale, là, son volet économique suscite des réticences, y compris dans les milieux de petits patrons, d'artisans, etc. Donc, est-ce que ce programme...
De petits ou de gros?
Les deux, en général. Est-ce que ce programme, à votre avis, est fait réellement pour être appliqué, ou est-ce que dans l'esprit de Marine Le Pen... C'est un programme, d'ailleurs c'est ce que m'ont affirmé certains proches de Marine Le Pen, mais elle, je ne sais pas ce qu'elle pense. Est-ce que ce programme est simplement fait pour attirer des électeurs venus de la gauche, comme c'est le cas dans le Nord, à Hénin-Beaumont et ailleurs, pour attirer ce type d'électeurs et aller à la victoire, mais n'est pas fait en réalité pour être appliqué ensuite?
En fait...
Le programme, on ne l'a pas complètement vu, hein, le programme.
Un programme à deux faces. Donc il joue sur les deux tableaux. Mais Jordan Bardella, avec son programme d'union des droites, plutôt libéral, se rapproche du programme qui était celui de Jean-Marie Le Pen. Elle, peut-être qu'elle a voulu se démarquer de son père, mais aussi, elle fait du Chirac. Rappelez-vous Chirac qui disait « Je vous étonnerai par ma démagogie pour contourner Balladur ». En fait, le problème aujourd'hui, leur problème, c'est de conquérir le pouvoir. Le programme économique, moi j'en ai discuté avec François Durvie, qui a des visions assez saines.
Et donc un conseiller très proche.
Économique,
conseiller économique de Marine Le Pen.
De Bardella maintenant, mais bon, il est entre les deux. Mais si vous voulez, on est un pays où il y a énormément de gaspillage, il y a énormément d'économies à faire. C'est un pays qui n'est pas géré. Et je pense qu'ils s'ajusteront. Ça va dépendre aussi de la décision des juges. Parce que je pense qu'elle continuera à jouer un rôle même si elle n'est pas éligible. Mais lui, il commence à s'affirmer et à montrer sur des tas de sujets, également politique étrangère. Il n'a pas tout à fait la même ligne. Alors pour l'instant, il joue de leur ambiguïté, mais quand vous écoutez Sarah Knafo, elle dit qu'ils ne pourront pas faire ça indéfiniment.
Est-ce qu'ils font une
et
bonne...
Et puis, je vais vous dire un truc. Oui. Jacques Chirac, alors déjà Mitterrand en 83, il a fait un tête à queue parce que sinon
le pays était ruiné,
passé sous les ruines, sous les fourches du FMI. On a même été obligé d'aller emprunter de l'argent à l'Arabie Saoudite. Bon, mais dans l'histoire française, c'est assez récurrent, les faillites, en 83. Chirac, même chose. Cole, dans une taverne, lui dit « Écoutez, Jacques, vous voulez faire l'Europe, oui ou non ?» Bon. Et là, c'est un peu le même scénario, c'est-à-dire les Français ne sont pas très sérieux, puis à un moment donné, on les rappelle aux réalités. Mais je pense quand même que la situation étant de plus en plus sérieuse, qu'on ne pourra pas jouer indéfiniment à ça.
Je me souviens de ce que vous dites là, le tournant de la rigueur, André Labarrère, qui était ministre des Relations avec le Parlement, le maire de Pau, l'emblématique maire de Pau, il m'avait dit, tu as vu ce qu'on a fait, la rigueur là, si la droite avait fait ça, on aurait mis toute la gauche dans la rue.
Oui, mais d'ailleurs, cette rigueur, j'en ai c'est parlé vrai. Un jour avec Jack Lang, ça a été une sacrée rigueur. Ça a été un sacré tournant libéral.
Imposé par Monroy.
Ah oui, oui, oui. Monroy a tenu bon avec Jean Perlevade, qui vient d'ailleurs de faire un très bon
bouquin. Toute la gauche qui croyait au Père Noël en 81 a grincé des dents.
Mais c'était encore une époque où on voulait gouverner. Et c'est un peu le problème aujourd'hui, c'est qu'on a des dirigeants qui n'osent plus gouverner, qui n'osent plus prendre de risques, qui ont peur de l'affrontement. Et je pense quand même que l'atout de Marine Le Pen, il est là. C'est qu'elle n'aura pas peur de l'affrontement.
Hubert Coudurier, est-ce qu'elle fait une bonne campagne ou est-ce que c'est l'effondrement de la France et les drames qui se succèdent qui font campagne à sa place? Je cite ce que vous dites de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy dit « c'est leur tour ».
Alors c'est marrant parce qu'elle m'a parlé de Nicolas Sarkozy la première fois qu'on s'est vu, en me disant d'abord, c'était bien avant qu'il soit emprisonné, qu'il était obsédé par son affaire judiciaire. Et Nicolas Sarkozy s'est toujours rapproché du pouvoir. Alors il s'est rapproché d'abord des Chiraciens, puis des Balladuriens, puis des des Macronistes.
Ouais, enfin, il est mis auprès du manche.
Il a fait sa carrière quand même comme ça. Bon. Je pense que... C'était quoi votre question? J'ai perdu le fil.
La question, c'est est-ce qu'elle fait une bonne campagne ou est-ce que c'est vraiment
un vote d'adhésion?
Je pense qu'elle est extrêmement prudente. Moi, j'avais été frappé de voir que pendant l'affaire des Gilets jaunes, elle n'a pas mis d'huile sur le feu, pas plus pendant la crise sanitaire. Sur la politique étrangère, elle est plus prudente qu'on ne le dit. Alors évidemment, on l'accuse d'être pro-russe, etc. Mais c'est pas vrai, en fait. C'est plus compliqué que ça. Il y a eu un prêt...
Qui a été remboursé.
Qui a été remboursé à une banque russe, parce qu'ils ne trouvaient pas de prêt en France. Banque russe qui, d'ailleurs, a été rachetée par des Tchèques.
Mais ils ne trouvent toujours pas, c'est pour cette année.
C'est incroyable. Ils ont moins de problèmes d'argent, maintenant, parce qu'ils ont de l'argent public. Et puis, finalement... la seule chose où effectivement elle fait un choix dans sa politique étrangère, c'est qu'elle refuse qu'on contribue à l'aide à l'Ukraine. Elle dit on n'a plus les moyens, on n'a plus d'argent, c'est 18 milliards pour la France. Et là-dessus, il y a une divergence avec Jordan Bardella, qui est plus sur une ligne Giorgia Meloni. Mais là, effectivement, c'est un acte fort, c'est-à-dire que quelque part, elle considère que la France ne peut plus dépenser de l'argent, même si c'est un choix de politique étrangère qui est engageant.
On l'a vu récemment, il y avait que vous avez dû voir, Hubert Coudurier, un échange notamment public, parce qu'il était sur Twitter, où Philippe Olivier reprochait à un député européen, M. Thionnier, proche de Jordan Bardella, de reprocher aux nationaux effectivement cette politique anti- livraison d'armes et de sous à l'Ukraine. Donc effectivement, et Philippe Olivier, proche de Marine Le Pen, disait parce que l'intérêt national, c'est la guerre, pour l'interrogation. Donc il y a effectivement...
Thionnier a remplacé Mariani, en fait. C'est devenu c'est l'homme de Bardella pour la politique étrangère et pour l'Europe. Mais c'est le vrai sujet, là, aujourd'hui. C'est d'ailleurs, le JD News a fait un magazine là-dessus, avec les propos de l'ancien conseiller Nicolas Sarkozy, Henri Guénaud. Ils sont quand même... Ils trouvent que la guerre, c'est sérieux, que Macron fait trop de gesticulations...
De la com.
De com, et que... Il faut pas se couper des Russes de façon aussi ostentatoire. Et en même temps, il y a beaucoup de postures aussi dans le camp présidentiel.
L'Europe, ça doit être de l'Atlantique à l'Oural.
Non, mais surtout, il reproche à, tout, à ce camp de, d'oublier un peu les intérêts de la France, par, si je comprends bien, hein, par, après ça, tout ça se débat.
Alors, il y a une
débat,
phrase, Bardella, mais... moi, c'est une phrase qui m'a été rapportée, mais moi, j'aime bien les petites phrases, parce que ce qui est marrant dans les biographies, c'est quand même...
C'est vivant,
c'est l'anecdote,
des petites phrases, il y en a pas mal. Bon. Ouais. On a cité ça leur tour de Nicolas Sarkozy.
Il y a une phrase de Bardella qui dit « J'en ai rien à foutre des Russes, je suis jamais allé à Moscou ». C'est un propos qui m'a été rapporté.
Abusant.
Mais vous savez, le problème, en fait, c'est que je pense qu'on ne gouverne pas la France de 36 façons différentes. Et donc, si jamais ils sont au pouvoir, ils seront dans une phase de normalisation qui est en train de s'accélérer. De même que quand on me dit qu'il faut mettre
j'espère
des extrêmes...
qu'ils ne gouverneront pas comme ceux qui les ont précédés.
Non, mais sans doute avec plus,
gens
de, plus de vigueur. Mais en même temps, ça devient compliqué aussi, hein, aujourd'hui.
Vous avez... Si vous ne remettez pas tout à plat, ils gouverneront comme les autres.
Oui, bah, c'est
il faut
qu'ils veulent faire un référendum, etc. Ouais. Mais il y a quand même beaucoup, de, beaucoup d'enjeux. Y a eu, vous savez, depuis, moi, j'ai vu Villepin l'autre jour, quand il a rendu les clés en, à la fin du mandat de Chirac, on était
Néron.
Mieux que l'Allemagne. Oui, d'accord, mais on était mieux que l'Allemagne. Et les comptes étaient bien tenus. Et puis, il y a eu après bah, la crise financière, crise sanitaire, les gilets jaunes. D'ailleurs, les gilets jaunes, elle a été très prudente. Et elle est très prudente aujourd'hui.
Ouais.
Elle fait attention. Parce
de plus en plus prudente.
Hein, et ben oui, parce qu'elle sait qu'à un
surtout
moment donné...
Surtout d'étrangers, de
Et quand
Trump,
on met
etc.
les extrêmes de, sur le même plan, je leur dis, bah, écoutez, vous avez au moins un parti qui fait des efforts de normalisation, alors que l'autre, il fonce dans le mur en klaxonnant. Quoi. Mais d'ailleurs, il y a une petite phrase de Mélenchon à Chenu, il lui a dit vous avez 10 ans d'avance en matière de dédiabolisation. Et puis à la fin de la discussion, il dit vous êtes sympathique, on vous trouvera une petite cellule.
Nous sommes avec Hubert Coudurier, Le mystère Marine Le Pen, édité chez Plon. Tiens, on va parler du tempérament de Marine Le Pen.
Reste en courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire.
Question Hubert Coudurier, où puise-t-elle sa détermination? Est-ce que c'est un cas de résilience, comme le décrit si bien Boris Cyrulnik, le psychiatre, vous savez, qui dit qu'on trouve dans ces épreuves finalement la détermination et le courage et la force de caractère pour surmonter d'autres, plus grandes encore. Vous écrivez qu'elle a pour elle le courage et l'obstination de ceux qui, ayant toujours été rejetés, ne savent pas séduire.
D'abord, elle ne sait pas séduire, elle est cash, elle est très directe, hein, quand vous la voyez, elle ne fait pas un pli. Quand elle s'énerve, moi, elle ne s'est pas énervée devant moi, mais à part cette petite phrase sur Bardella, enfin, bon, ça fait rigoler tout le monde, parce qu'elle protège Bardella parfois outrageusement, dès qu'il prend un œuf sur la tête.
Oui, elle a un côté merlouve.
Mais quand elle engueule ses députés, parce qu'ils ont fait, ils ont dit quelque chose qu'il ne fallait pas dire, etc., tout le monde passe sous la table. Je veux dire, elle a des colères qui sont dignes de celles du père.
Ouais.
Et elle est clivée, c'est-à-dire qu'elle a à la fois ce côté, cette volonté de réparation, ce côté maternel, et puis elle a le côté brutal du père aussi, qu'elle a intégré.
Ouais. Et elle a puisé cette force quand même dans les épreuves de sa vie, vous en parlez.
Elle a ce côté, si vous voulez, elle est sentimentale, ce que n'est pas du tout Bardella.
Ouais.
Qui est plus cynique. Alors Bardella, je vais être honnête, je me le paye un peu dans le... Je l'appelle l'ami de ces dames dans le chapitre que je lui ai consacré, parce qu'en plus il m'a pas reçu, donc j'y suis allé franco. J'ai toujours un préjugé favorable pour les hommes politiques qui se livrent et qui vous exposent un peu.
Il aurait dû, la prochaine fois.
J'espère que vous en aurez pas l'avenir.
Marine Le Pen, pas Marine Le Pen, mais son secrétaire général, Renaud Labeille, il m'a dit, mais pourquoi est-ce qu'il vous a pas reçu? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Voilà.
Ouais. Eh ben, si vous n'avez pas reçu, ça ne pouvait pas fonctionner. Jean-François Courrouzard.
J'allais dire, Madame Le Pen et la famille. Et je pense à sa nièce, surtout.
Bah,
c'est Je t'aime, moi non plus.
C'est Je t'aime, moi non plus, bah, parce qu'elle l'a élevée avec sa sœur Yann, qui avait été quand même abandonnée par son mari, que j'ai bien connu, Roger, qui était un journaliste sympathique, peut-être un peu léger, mais qui a quand même souffert, puisqu'il a été otage à Beyrouth. Et donc, c'est Samuel Maréchal qui a été vraiment son père adoptif, dont elle a repris le nom. Et c'est une fille sympathique. Elle est brillante. Elle est bien cortiquée. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça aussi que Bardella s'en méfiait. Bon, récemment, il a fait un petit effort. Il est allé
à la signature
de sa biographie, parce que je pense que maintenant, il y a l'ombre de sa arc d'infos qui pointe.
Enfin, quand ils sont allés tous les deux en Israël, ils ne sont pas adressés la parole. Hein. Donc, voilà. Mais alors, pour revenir à la relation entre la nièce et la tante.
Et la tante.
Elle a beaucoup d'affection pour elle, beaucoup de tendresse. Elles évitent de s'engueuler en public. Mmh. Moi, la première chose que m'a dit Marion, c'est quand on est entre nous, on ne parle pas de politique. Mon œil, pas exagéré. Mais c'est la famille.
Vous êtes sans illusion.
Mais elle a fait des erreurs, Marion Maréchal. On lui a trouvé une circonscription en or dans le Vaucluse.
Elle l'a laissé.
Bon, n'a pas été pardonné par les militants.
Pour se concentrer sur sa famille.
Et après, elle est partie chez Zemmour. C'est un peu comme quand vous êtes en bisbille dans votre propre famille. Et vous pensez qu'à l'extérieur, vous allez trouver une écoute favorable. Bah non, elle s'est fait flinguer. En plus, elle est arrivée au moment où la cote de Zemmour se cassait la figure. Donc, elle n'a rien apporté.
C'est la fille prodigue.
Et oui, mais du coup, elle est revenue au bercail. Elle a fait amende honorable. Et puis, mais avec quand même, pour le coup, une méfiance de Bardella qui, pour le coup, était justifiée.
Et Zemmour une et détestation de chez Zemmour, maintenant, du camp Zemmour envers elle, qui est très forte également.
Et Zemmour et Marine,
bien sûr.
Ah oui.
Alors ils se renvoient à la figure des arguments, disant chacun a piqué la caisse. Enfin bon.
Je pense effectivement que ce côté, clanique dont on parle de la famille Le Pen, il est important et il est souligné par cet accueil, ce retour de Marion, parce qu'effectivement le crime de Zemmour, il est effectivement un difficilement pardonnable. Stéphane Ravier à Marseille, le sénateur désormais, sans rattachement politique, bien qu'il ait soutenu la campagne de Franck Alizio à Marseille, ont fait un petit peu les frais. Marion a été pardonnée parce qu'elle appartient au clan Le Pen.
Elle a repris le nom dans le titre de son livre. Et de toute façon, c'est quand même un milieu, comme il n'y a pas que au RN, il y a beaucoup de haine recuite, il y a beaucoup de règlements de compte, il y a beaucoup de...
Et il y a beaucoup de traumatismes. Il y a beaucoup de traumatismes.
Oui, mais juste une question qui me vient là, mais est-ce que ces haines, ils arriveront à passer sur leur haine pour reprendre les destinées du pays en main? Parce que tout est là, finalement.
Vraie question.
Il faut voir le noyau dur qui est autour d'elle, et c'est surtout eux que j'ai vus, et le livre a cet intérêt, c'est qu'il les fait parler. Il y a aussi Ambroise de Rancourt, qui est le directeur de cabinet. Il semble qu'en ce moment, les attitudes un peu contradictoires sur la retraite posent problème. Et puis, en fait, on ne sait pas trop quel serait le meilleur candidat. Ils ont chacun des avantages et des inconvénients.
C'est vrai.
Lui, de ne plus porter le nom.
Et à peu près le même tiage dans les sondages, même si Bardella est souvent un petit peu devant.
C'est-à-dire qu'elle, on l'a enterrée depuis quelques semaines en disant c'est fini.
Voire quelques mois, c'est vrai que ça fait
Et maintenant, ça remonte un peu. Alors, on ne sait pas si ce sont des postures du pouvoir qui laissent entendre, notamment à Matignon, que non, c'est pas joué du tout.
Oui, il y a des bruits qui courent assez insistants pour dire que finalement, Marine Le Pen pourrait être remise en scène.
Et en fait, ça se joue, c'est pas eux qui vont...
Par les juges. Des bruits que rien ne confirme.
Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, certains de nos confrères effectivement, font parler des membres du gouvernement ou des acteurs éminents du bloc central. Qui pour certains parlent publiquement et d'autres c'est plus souvent en off, mais qui disent que Marine Le Pen est une candidate plus redoutée, en tout cas c'est la petite musique qui sort actuellement, qui est plus redoutée que Jordan Bardella par le gouvernement et par Édouard Philippe.
Gérard Larcher nous a
Marie
dit...
Sévilla, journaliste politique à Boulevard Voltaire.
Comme tous les journalistes politiques, je fais des déjeuners de presse. Et donc Gérard Larcher nous a dit...
Larcher aussi fait des déjeuners.
Oui, il nous invite en tout cas. Et donc, il nous a dit, si c'est Bardella, ça nous ouvre des perspectives. Sous-entendu, il ne tiendra pas une campagne. Voilà. Mais en même temps, il est...
Oui, mais tout le monde dit ça depuis très longtemps,
il paraît, j'étais en Chine, qu'il a été très bon dans sa dernière émission sur LCI. Donc en fait, il progresse.
Mais oui.
Puis c'est aussi un parti où on ne travaillait pas, on faisait la fête. Maintenant, on travaille plus quand même.
C'est sur ça. Marine Le Pen, vous avez eu quelques témoignages, parce qu'elle a cette réputation de jeunesse, de grande fêtarde.
C'était sa réputation, mais maintenant, elle ne fait plus beaucoup la fête.
Dans cette boîte de nuit en Bretagne.
Elle a une vie plutôt austère.
Ouais. Alors, c'est le bois de nuit en Bretagne, j'ai oublié le nom dans votre livre. Voilà,
le Stirouenne. D'Alain Barrière. Voilà. Barrière. Oui. Ah, ouais. Ah, oui, qui était un peu fêlé d'ailleurs. Oui.
Ah, voilà, vous racontez ça dans votre livre. Je voulais revenir sur la personnalité, c'est le sujet hein, de Marine Le Pen. Elle a vécu beaucoup de traumatismes. Hein, l'attentat petite qu'elle raconte avec des mots très touchants.
C'est Beyrouth.
C'est Beyrouth. Hein,
franchement. Parce que nous, on est.
Alors, il y a l'attentat, il y a son divorce.
On est quand même des rigolos en France. On a la guerre à 1000 kilomètres, un peu plus. On n'imagine pas ce que ça représente comme souffrance. C'est indicible. Et les médias nous en montrent le minimum. Hein. On voit très peu de choses.
On ne filme plus les guerres, maintenant. C'est comme on le faisait avant. C'est terminé.
Gaza.
C'est vrai qu'elle... Elle raconte hein, dans son livre qu'elle
se retrouve... Il voit Paris.
L'immeuble est éventré complètement. Il n'y a pas de doute.
Et puis, il n'y a pas de cellule psychologique à l'époque. Et on leur dit, bon, allez, ramassez vos affaires, va retrouver ses poupées dans les gravats, et puis terminé. Il se réfugie chez Jean-Marie Le Chevalier, qui deviendra maire de Toulon. Et ça, c'est le premier traumatisme. Bon, elle réalise à quel point on peut haïr son père et vouloir détruire sa famille.
Qui avait mis la bombe, on le sait, je me
souviens.
Bon, on ne
sait pas. Il y a eu des spéculations sur le fameux sur l'héritage. On a parlé aussi de mafia. Enfin, ça n'a jamais été élucidé. Ils ont fait des enquêtes, pourtant. Et alors, le deuxième traumatisme, c'est le départ de sa mère. Ça, c'est un vrai traumatisme. Ouais. Elle en est très malheureuse. Elle est jeune, hein. Qu'elle a 8 ans ou 12 ans, ou 12 ans peut-être. Et elle l'attend, et elle ne revient pas. Et c'est pour ça que, quand il y a ces photos qui sont publiées dans lui, elle a cette phrase terrible en disant « Une mère, c'est un jardin secret, mais c'est pas un dépotoir public, etc. » Elle est très dure. Et c'est Marie-Caroline qui les réconciliera, parce que là, du coup, elle a basculé complètement dans le camp de son père. Faut dire que l'histoire est quand même dingue. C'est
quand même une femme
blessée. Journaliste de Paris Match, je l'ai écrit, mais j'ai oublié son nom.
Barcy.
Qui vient faire une biographie de Le Pen, qui s'installe dans la maison et qui part avec Pierrette.
Oui.
C'est Dallas, en fait. Ouais.
Parce qu'elle avait pu, elle a eu des soucis de financiers, ce que vous racontez dans le livre. Et elle s'en ouvre à Jean-Marie. Et Jean-Marie dit qu'elle a qu'à faire des ménages. Elle l'a pris au mot.
Voilà.
En soubrette, des photos dans lui, qui avait fait à l'époque un scandale.
Moi, j'ai jamais eu de femme de ménage comme ça chez moi.
Mais ils ont un côté quand même terriblement fantasque.
Oui, bah oui. Ah,
c'est quand même des... Bon,
Il paraît
que les fêtes à Montretout, je n'y suis pas allé à l'époque, mais il y avait tout. Il y avait Georges Descrières, le héros d'Arsène Dupin.
Alain Delon.
Le prince Farouk, c'était un mélange bigarré. Ouais.
Mais Jean-Marie Le Pen,
Long, évidemment.
Jean-Marie Le Pen, même jeune, adorait la fête avant même qu'il refasse de la politique.
Ouais. Gâché.
Et il était, comment s'appelait ce dirigeant de ballet, de corps de ballet très connu,
Cuevas.
Le marquis de Cuevas. Et Jean-Marie Le Pen était très pote avec le marquis de Cuevas et ils faisaient des virées ensemble avec des fêtes terribles.
Il y avait toujours des trucs incroyables. Florent Kersauzon me raconte qu'il n'est pas venu à son mariage, parce que le jour de son mariage, il était en voiture, les freins ont lâché et la voiture a percuté le cimetière. C'était toujours des trucs improbables.
Incroyable. Et vous dites d'ailleurs que le tube préféré de Marine Le Pen, c'est « Mourir sur scène ».
Voilà.
Hein.
Alors c'est,
là, on y est, on est en plein dans le théâtre.
C'est mon premier chapitre, ça. Oui, effectivement. Voilà. Mourir sur scène, et ils adorent chanter, faire la fête, et elle me dit, voilà, on chantait, on reprenait en canon, c'est-à-dire qu'il y en a qui commencent, l'autre qui suit, etc. Ouais. Et oui, les soirées sont souvent chantantes.
Les Français, quoi.
C'est une famille française, c'est pas toujours de très bon goût, mais c'est vivant.
Voilà, c'est vivant.
Ouais. Et vous dites aussi que lors du fameux débat qui a été terrible pour elle, ça aussi c'est un petit traumatisme quand même pour elle.
Elle a été humiliée par la virtuosité intellectuelle de Macron, qui en plus on lui avait tendu un petit piège en fait, c'est que
mal préparé.
Dit que Macron pourrait quitter le débat si elle l'attaquait trop fermement.
Et du coup, qu'elle l'a attaqué.
Elle l'a attaqué, elle s'est un peu plantée, elle a essayé de faire une scène où elle raconte.
Mal conseillé.
Vous êtes dans les. Alors, elle en a voulu après à Florian Philippot, puis elle était fatiguée, ça a été un plantage.
Oui, les concours de circonstances.
Mais... Il paraît que pendant des mois ensuite, elle était totalement déprimée.
Mais vous dites que Macron est admiratif du caractère combatif de son adversaire à cette occasion.
Bah Macron, il, enfin, ce que je crois que c'est Richard Ferrand qui m'a dit ça. Macron, il a tout eu très vite, et sans doute trop vite. Mais je pense qu'il est quand même assez admiratif de tous ces vieux combattants qui réussissent au final après de multiples humiliations. Je pense que quelque part, il sait apprécier ça.
Vous lui faites beaucoup de crédit, je trouve. Macron n'apprécie que lui-même.
Jean-François Coulon des Arts, à son avis sur le.
Etc. Vous lui faites beaucoup de crédit. Alors,
en tout cas, ce que je pense, c'est que elle a été humiliée par la virtuosité intellectuelle de Macron, mais qu'on n'a plus besoin de gens intelligents en France. On a besoin de dirigeants qui font, qui prennent des décisions courageuses. Et elle est courageuse.
Et qui les font appliquer.
Et voilà.
Ouais, ouais. C'est comme sur le tout étant effectivement d'être élu.
Oui, c'est
voilà,
sûr.
C'est préalable.
Le ministre de la Justice.
Puis élu.
Voilà, le ministre de Justice est en train de dire, là, j'ai envoyé des notes au parquet, etc., puis le parquet n'applique pas. Je veux dire, si l'administration n'applique pas, vous faites quoi ?
Oui. Ah. Allez. Les politiques ont quand même fait tout ce qu'il fallait pour
se mettre dans cet état-là.
Ouais.
Nous sommes avec Hubert Coudurier, qui signe chez Plon le mystère Marine Le Pen. On vous retrouve juste après.
Reste en courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire.
Et on trouve page 193 dans votre livre, Hubert Coudurier, ce petit passage. Toute sa vie fut pour elle et ses sœurs, on parle de la personnalité de Marine Le Pen, une personnalité quand même à part coriace. Toute sa vie fut pour elle et ses sœurs un long combat afin de se faire accepter. On a été traités comme des parias pendant des années sans aucune raison. Vous dit Marine Le Pen, quand elle entrait dans l'amphithéâtre à Nanterre, lorsqu'elle faisait ses études, certains étudiants lui balançaient des crottes de chien. De la même manière, sa carrière au barreau fut entravée par la bien-pensance de ses confrères. Ça forge quand même un caractère, tout ça, non ?
Oui, et elle aime pas, et du coup, elle n'aime pas beaucoup les bourgeois.
Ah, ça vient de là.
Ben, je pense.
À Nanterre, il n'y en avait pas beaucoup. Il y en avait beaucoup à Nanterre, les bourgeois.
Si, non,
avait...
non, mais.
Il y avait plus de trotskistes que
j'ai. Le 16e était sectorisé à Nanterre.
Je raconte la scène à laquelle vous avez participé, puisque c'est vous qui me l'avez raconté.
Ouais. Absolument. elle est dans le livre.
À Croissy, où effectivement, elle est reçue dans un milieu de bourgeois un peu traditionnalistes, qui partent un peu dans les tours, et elle les interrompt.
C'est-à-dire qu'il lui donne des tas de conseils, il lui donne des tas de revendications. Alors, on dit, voilà, si vous voulez qu'on vous soutienne, eh ben, il faut ceci, cela, etc. Donc il y a une longue liste, très très longue, que Marine Le Pen écoute, et l'orateur ne la regarde pas, il ne se rend pas compte. Et moi, je vois qu'elle est en train de passer du rouge au blanc et du blanc au vert. Et donc, elle attend. Et puis, une fois qu'il a fini de parler, vous racontez la scène dans le livre.
Des bourgeois, ils sont très protégés.
Elle explose.
Et ils sont protégés et ils ne mesurent pas l'état de déliquescence du pays.
Est-ce que ça vient de là, Hubert Coudurier, son
mari?
Dans la version, c'est un peu exagéré. C'est aussi pour des raisons. Sociologiques.
Vous l'appelez la châtelaine de Montredoux. Elle n'a pas eu une enfance aussi dure que son père, qui était quand même, pour le coup, un enfant du peuple.
Mais est-ce que. Du peuple, comme certainement, sa critique de l'union des droites, qui est un plus grand thème, peut trouver aussi un petit peu une part de raison là-dedans. C'est-à-dire que ce dédain pour une certaine bourgeoisie, notamment qui était plutôt UMP, enfin de droite dite de gouvernement, ça reste. Et donc aujourd'hui, le principe d'union, au-delà d'un calcul politique ou stratégique,
mais il y a aussi le fait qu'elle pense que tactiquement, c'est la meilleure posture. Elle pense que c'est la méthode
d'embrasser plus large.
Pays. En fait, Philippe Olivier m'a dit, on serait en Italie avec leur mode de scrutin uninominal, on serait déjà au pouvoir. Elle serait aux États-Unis, Trump, il a pu radicaliser son électorat. C'est le système électoral américain. En France, vous avez un système à deux tours. Il faut se rapprocher du centre. C'est ce qu'elle fait. Regardez la stratégie de Villepin.
Et puis surtout,
Villepin, il va enlever quelques points quand même
À Mélenchon. Ouais. Hein? C'est l'idiot utile.
Alors surtout, ouais. Elle s'appuie sur les ouvriers. Vous dites que c'est un peu la star des ouvriers. Alors vous écrivez dans votre livre, vous citez Eric Tegner, le patron de Frontières, et qui vous dit, pour l'avoir suivi, je suis frappé qu'aucun politique ne voit ni ne comprenne que la classe ouvrière l'adule, littéralement. C'est une star et une mère pour eux. Et en cela, c'est la meilleure politique aujourd'hui. C'est une écorchée plus compétente qu'on ne le pense, mais qui va devoir être humainement très forte, car pour moi, 2027 ne se jouera ni sur les programmes, ni sur les idées, mais sur ses capacités à gérer son rapport à cette décision de justice et à Jordan Bardella.
Et la classe ouvrière dont vous parlez, la classe ouvrière, elle existe encore,
ce qu'il en reste.
Ce qu'il en reste. Et c'est vrai que le Parti communiste, il n'y en a plus, et Mélenchon a suivi cette stratégie dictée au départ par Terra Nova, de remplacer le prolétariat français par des immigrés. Donc la classe ouvrière, effectivement, elle était en déshérence et elle a trouvé chez Marine Le Pen, effectivement,
une oreille
attentive.
Et ils ont tout le spectre aujourd'hui.
Hubert
C'est-à-dire qu'ils ont également séduit les retraités. Ça a longtemps été terrain incognita et puis maintenant, Jordan Bardella fait figure de gendre idéal. Et
le petit-fils parfait.
Voilà, donc c'est un vrai parti attrape-tout. C'est le RPR d'antan.
Oui, c'est ça. Avec un programme qui est plus à gauche que celui du RPR.
Ouais, enfin, ça, on verra. Hein.
Oui,
ça, on verra.
À l'instant, là, on parle.
Tout à fait.
Alors, le programme de droite du RPR, il n'a malheureusement jamais mis en application.
Non, en 1995, c'était un programme qui était...
Ah, oui.
86, un peu. 86, 88.
Ouais. Ouais. Allez, il nous reste encore quelques minutes avec vous, Hubert Coudurier. Je voulais qu'on parle de son entourage. Là, vous racontez très bien ça dans le livre. Il y a plusieurs cercles, on va dire, autour d'elle. Il y a des techniciens, il y a des Versaillais.
Le clan des Versaillais,
il y a les Horaces.
Renaud Labeille, le secrétaire général... C'est Ambroise de Rancourt et c'est un peu François Durville aussi. Oui.
C'est ça, ouais. Voilà, entre autres. Et il y a le patron des députés aussi.
André Rouget. André Rouget, c'est le fondateur.
André Rouget, ça c'est les Horaces.
Ah, ouais.
Hein, donc il y a les Horaces.
Le patron des députés, c'est Chenu.
C'est ça.
Qui vise la présidence de l'Assemblée.
Voilà, depuis longtemps.
Qui est un homme qui a beaucoup d'humour. Enfin, un peu trop, d'ailleurs. Il agace. Mais,
Et donc, tous ces cercles, notamment les techniciens, c'est assez nouveau.
Il n'est plus beaucoup représenté, à part Châtillon, qu'elle aime bien, mais qui est tenu un peu à l'écart.
Il est totalement à l'écart. C'est quand même un peu
la cagnotte, quand même.
C'est un ami.
Ça reste un ami, condition qui se taise.
Est-ce qu'elle résiste au phénomène de cour inhérent forcément
à Jean-François Colomb ? Elle dit « J'ai trop vu le phénomène de cour chez mon père pour ne pas y succomber. » Pour y succomber, pardon.
Mais est-ce que, vous savez, c'est la question que tout le monde se pose, est-ce qu'elle aura l'équipe suffisante, si jamais elle accède au pouvoir, elle ou Bardella d'ailleurs, pour gérer le pays ? Vous expliquez dans le livre qu'elle a un réseau de patrons. Hein, Henri Proguelio, Safran, Engie, qu'elle part avec Bolloré.
Elle avait Proguelio qui s'est mis en avant, et les autres, c'était plus difficile de les faire s'afficher.
Ouais.
Donc il y a eu quand même la prestation de Bardella devant le MEDEF. Il y a eu des commentaires assez mitigés, mais enfin déjà, l'affichage, c'était important pour eux.
Ouais.
Mais vous savez, en général...
Est-ce que vous pensez qu'elle trouvera les ressources pour gouverner, y compris en économie ? Parce que c'est ce qui freine beaucoup la bourgeoisie dont on parlait tout à l'heure.
Bah, tant qu'elle n'a pas le pouvoir, ça la freine. Et puis le jour où elle aura le pouvoir, si elle l'a un jour, tout le monde basculera. Vous savez, on va vite à la soupe.
Bien sûr. Elle entretient de bonnes relations avec Vincent Bolloré.
Alors, avec Bolloré, je raconte une anecdote où elle s'engueule avec Serge Nedjar, le patron de CNews.
Ça, qui ne s'engueule pas avec Nedjar.
Oui, mais là, ça a été sévère. Il y avait Laurence Ferrari, parce qu'en fait, pendant la campagne, ils avaient pris, fait des causes pour Zemmour. Alors, Pascal Pro m'a dit, tu comprends, c'était notre éditorialiste. Mais elle s'est sentie vraiment exclue des antennes de CNews, d'où cette engueulade. Elle a revu Bolloré récemment et elle lui a dit assez drôlement « Vous devriez prendre un bon chroniqueur économique. » Alors quand on sait que Bolloré considère qu'elle n'est pas au niveau sur le plan économique, c'était une petite pique.
Ah ouais.
Les rapports ne sont pas mauvais, mais elle considère que Bolloré gère son groupe et elle va gérer la France. Hmm. Voilà. Donc elle a... C'est tout le côté... Alors j'ai écouté Jean-Luc Barré, qui est mon éditeur, hein, qui a fait cette biographie monumentale sur De Gaulle, expliquer que jamais on pouvait lui l'assimiler. Parce que je lui dis, est-ce que vous êtes gaulliste? Alors elle me dit, gaullienne, ce serait déjà bien. Et tout le monde veut se raccrocher aux mannes du général.
Oui.
Et eux, évidemment, ils ont un passé qui ne plaide pas forcément pour ça.
Oui.
Mais, et donc Jean-Luc Barré s'étrangle, et beaucoup disent, vous savez, l'extrême droite n'a jamais été au pouvoir, sauf sous Pétain. Bon. Mais...
Oui, encore que ce soit assez contestable, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient de la gauche et l'entourage de Pétain.
Mais voilà.
Mais Pétain a été mis au pouvoir par la chambre, était à gauche.
Par la chambre du Front Populaire.
Et elle a dans son entourage, vous donniez des noms à quelqu'un qui vient de la France Insoumise, qui est Cotarac, qui est le conseiller diplomatique. Mais tout ça, vous savez, c'est la France. Tout ça, à un moment donné, à partir du moment où vous pouvez conquérir le Graal, tout le monde trouvait que Chirac était un ringard, et Mitterrand, un vieux politicien usé. Bon, à partir du moment où vous accédez à la magistrature suprême, la perspective change.
Ce tour de force de Mitterrand, qui a été combien, 5 fois, 6 fois mis à 4e, qui a été, qui a eu la Francisque à Vichy, il apparaît en 81 pour une génération de 20-30 ans, vierge 9.
Ah oui.
Ce qui essaie de faire Mélenchon d'ailleurs.
Bah Mélenchon, moi je serais quand même prudent. Hein. Je pense qu'il va être capable d'adoucir les angles, de montrer qu'il est un grand républicain.
Bah voyons.
Et il ne faut pas le sous-estimer. D'autant que la France insoumise est souvent sous-évaluée.
Ouais.
Donc dire que si jamais il y a un deuxième tour entre les extrêmes, c'est gagné, c'est probable, mais il faut quand même faire attention. Hein.
C'est pas si gagné que ça. Alors, vous écrivez à la fin de votre livre que la patronne, hein, donc Marine Le Pen...
Oui, on l'appelle la patronne.
Voilà, acceptera son destin. Vous projetez un petit peu, si jamais elle l'emportait au présidentiel. Elle acceptera son destin, dites-vous...
Dans un sens ou dans l'autre, qui est aujourd'hui
suspendu à une décision des juges qui ont une lourde responsabilité.
Vont-ils voter Bardella ?
Et voilà, et qui ont pris jusqu'au 7 juillet prochain pour décider, hein, donc on saura de fait le 7 juillet, et son père disait, selon elle, pour les distancer de l'ivresse du pouvoir, nous arriverons au pouvoir sur un champ de mine, nous redresserons le pays, et puis ils nous pendront. J'ai trouvé la citation de Le Pen absolument incroyable.
Oui, mais surtout pour un homme qui,
parce que vous pensez que
s'il voulait vraiment le pouvoir, absolument. Parce que quand il a fait ce score face à Jacques Chirac, il était totalement effondré.
Mais oui, mais ça, c'est les peuples sont comme ça. Regardez Churchill, il perd les élections après la guerre, pendant il a gagné. Les peuples sont comme ça.
Oui, mais là c'est.
Enfin, d'abord, il y a la première séquence à écrire. Ouais. Est-ce qu'ils arriveront au pouvoir? C'est ça qui est intéressant.
Nous ils nous pendront, ça veut dire que le lendemain ne seront pas des jours de fête, quoi.
Oui, mais regardez ce qui est arrivé. Ils n'ont pas été très ébranlés par la défaite de Viktor Orban. Bon, elle a commis sans doute une erreur en allant le soutenir, mais elle est comme ça, elle est fidèle. Enfin bon, on a vu quand même que la démocratie...
Elle a bien fonctionné.
Et par contre, ils avaient envisagé d'aller voir Trump, et puis ils ont finalement décidé de ne pas le faire.
Est-ce que c'est une femme seule dans sa vie personnelle? Seule,
oui, elle est seule. Elle est seule, et d'ailleurs, elle m'a dit beaucoup de bien de Louis Alliot, et je pense qu'elle est toujours un peu amoureuse de lui, et ça a été l'homme de sa vie. Elle a même dit à... Je ne sais plus qui m'a raconté ça, qu'elle pensait qu'ils vivraient ensemble, donc ils se sont séparés. Et Louis Alliot est un personnage intéressant. Il m'a parlé précautionneusement, pas beaucoup, mais c'est quelqu'un de sous-estimé. Oui.
Qu'est-ce qu'il vous a dit, Louis Alliot, de Marine Le Pen?
Il m'a raconté un peu son parcours. C'est lui quand même qui a, avec William Goldnadel, fait ce rapprochement... avec la communauté juive et avec Israël. C'est quand même, il y a eu quand même là un pivotement assez remarquable. sans parler d'Arnaud Klarsfeld, etc., il s'est quand même passé quelque chose de majeur, même si certains le relativisent.
Ouais. Hubert Coudurier, dernière question. Vous écrivez donc Marine Le Pen à l'heure du jugement, le mystère Marine Le Pen. Où est le mystère finalement de Marine Le Pen?
Le mystère, vous l'avez dit. Est-ce qu'elle en a vraiment envie? Est-ce qu'elle est comme son père? C'est-à-dire que dans le fond, son père se contentait de cette fonction tribunicienne. Elle, on sent parfois qu'elle hésite. Par exemple, d'abord, je ne suis pas certain que d'avoir nommé Jordan Bardella était une bonne idée, puisque je pense qu'elle n'avait pas prévu une telle ascension. Enfin, elle aurait nommé Louis Alliot, je pense qu'il n'y aurait pas eu de plan B. Je veux dire, le côté éventuellement choquant de la décision des juges aurait été moindre. Alors que là, si c'est Bardella, voilà, ça sera réglé. Et donc, on peut se poser la question. Je crois qu'à un moment donné, elle en avait marre du canal historique et elle a voulu promouvoir un jeune qui lui obéirait. Mais là, déjà, ça coince un peu.
Le tome 2, c'est Le mystère Bardella.
On verra s'il me reçoit.
S'il vous reçoit. Voilà. Et vous dites que Marine Le Pen, son bureau de présidente de groupe à l'Assemblée nationale, ça a été celui de François Fillon.
La grande différence...
Est-ce que ce ne sera pas le même dessin?
Peut-être, mais à ce stade, on peut se poser la question. C'est que Fillon, malgré la casserole, malgré la campagne menée par la gauche, malgré le fait que la justice a été extrêmement rapide le concernant, il a quand même pu se présenter et il a été battu par les urnes. Et donc, elle mérite quand même, et sans faire de prosélytisme en sa faveur, c'est pas mon but, elle mérite quand même de pouvoir se présenter pour que les électeurs tranchent et pas les juges à leur place.
Est-ce que justement le
Yves-Marie Savillien
et au sein vis-à-vis de ses collègues parlementaires, quels ont été les échos sur la façon dont elle est appréciée à l'Assemblée nationale?
Ses collègues dans son groupe ou en
dehors? Non, dans l'ensemble et en dehors du groupe. Est-ce qu'elle a une stature effectivement qui dépasse? Le groupe RN.
Elle est maintenant reconnue, quand même. Elle a sa popularité, elle a une assise. Elle s'entend plutôt bien avec, bien, correctement avec Yael Braun-Pivet. Elle a pris, de la bouteille.
Elle est à toutes les réunions, vous écrivez.
Oui.
Elle suit ça vraiment au quotidien. Quoi.
Tout à fait. Elle a changé, elle a évolué.
Hubert Coudurier, je recommande votre livre Le mystère Marine Le Pen chez Plon. Marine Le Pen à l'heure du jugement, écrivez-vous. Livre extrêmement intéressant, on comprend beaucoup de choses. On plonge à la fois dans sa carrière politique, dans sa personnalité, dans ses cercles d'amis, dans les grands enjeux du Rassemblement National, de l'avenir du Rassemblement National qui commence à toucher à l'avenir de la France, compte tenu des intentions de vote dans les sondages et du poids de ce mouvement en France. Livre passionnant. Paru donc chez Plon. Merci Hubert Coudurier. Revenez quand vous voulez. Nous avons quelques mots d'auditeurs. Je suis choqué, nous dit un auditeur, par l'hommage que vous faites à Bernadette Chirac. Ce sont eux, son mari et elle, qui amenèrent l'avortement. Et je crois que c'était plus Valéry Giscard d'Estaing.
En plus, c'est Valéry Giscard d'Estaing. Donc je trouve cette réaction un peu bizarroïde.
Voilà. Et puis une autre auditrice, si votre invité s'intéresse à Marine Le Pen, il faut qu'il dise Frexit. Pourquoi Florian Philippot a quitté le Front National? Bon, voilà, le message.
Il y a beaucoup de littérature
est transmis
sur la question
à Hubert Coudurier. Allez, nous aurons tout à l'heure notre clin d'œil culture, mais auparavant, on va parler d'immigration et d'insécurité. On va se pencher sur l'exaspération des Anglais et des Irlandais, et nous aurons, pour nous donner des tas de détails et l'ambiance sur le terrain, notre ami Jean Bexon, journaliste à Boulevard Voltaire.